Radio Liberté 89.4.
Mercredi, 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
Radio Libertaire,
89. Un ami ici, c'est la raison pour laquelle je viens, c'est Richard Martin. Depuis que je le connais, je viens ici et c'est fantastique parce qu'il y a entre nous des rapports de fraternité et encore le mot n'est pas assez fort. Il me téléphone, t'entends, tu viens, je dis ouais, on signe pas de contrat, rien du tout. Hein. Voilà. C'est rare ça, de ne pas signer de contrat.
Richard, chaque année, vous montez au moins un spectacle en hommage à Léo. Quels sont les gens qui viennent? Est-ce que ce sont, on va dire, des convaincus, ou est-ce que ce sont des gens qui s'aperçoivent de l'extraordinaire modernité et l'extraordinaire actualité du verbe ferré?
C'est les uns, les autres, c'est le public de ce théâtre. Public de ce théâtre, c'est un public très large, parce qu'il y a des gens qui aiment Léo et qui fonctionnent dans des sphères très, très différentes. Donc des gens qui aiment le poète, puis des gens qui viennent aussi et entendent cette parole moderne qui aide à marcher droit, et puis aussi avec une telle générosité, je dis, parce que c'est vrai, c'est que ça transporte de l'humain, et c'est quasiment, là, moi je suis très sensible à ça, parce que j'ai un tel bonheur à faire passer les mots de Ferré dans la bouche du comédien, qu'il m'arrive de regretter de ne pas les avoir trouvés moi. Mais c'est si près que je sais que ça ne peut pas être inventé sans une immense générosité, sans une immense tendresse, sans amour. Sans amour, il manquerait une dimension à la proposition de Léo. Et les gens qui viennent à ces rendez-vous, je crois aussi, viennent recevoir et partager ça. Oui, ils viennent, ça résume un peu la discussion qu'on a eue jusqu'à présent, ils viennent entendre un type extraordinaire qui a su dire ce que nous n'avons pas réussi, nous, à formuler souvent, avec en plus une humilité. Je me souviens du moment où nous écrivions en Italie cet opéra d'Hera dont Léo a fait les dialogues. Et j'avais donc la vision de ce spectacle. J'avais inventé l'argument et Léo écrivait des dialogues sur des personnages que je lui avais racontés. Et le soir, il sortait de son atelier, de son imprimerie, et on se retrouvait dans la cuisine, et je lisais, et il me lisait à haute voix les dialogues offerts à ces personnages. Et quelquefois, dans mon travail de metteur en scène, j'avais, peut-être parce que je n'étais pas assez perspicace, quelques difficultés à raccorder sur ce que j'avais déjà imaginé, et je m'autorisais une réserve, parce que il m'était plus pratique d'aller dans un autre sens pour faire avancer ma machine. Et Léo, au lieu de me dire, écoute, petit, tu fais avec, il prenait sa copie, il repartait, il travaillait, il revenait et me donnait le texte modifié. Je me suis rendu compte plusieurs années après que j'avais eu une telle audace, une telle bêtise de même lui faire part de mes inquiétudes sur le travail, que j'ai pu me rendre compte grâce à ça que c'était l'homme le plus modeste et le plus humble, et qui se mettait au service d'un travail qu'on avait pensé en commun. C'est quelqu'un qui était vraiment capable de partager. Ça se sait pas suffisamment.
Les loupards et la décharge. Zaza, une loubine. Loulou, un loupard. Bikini, un loupard. Joseph, l'armateur, un loupard. Zaza. Les ordures, si lyriques quand on y pense. On a envie de les chanter, nous qui vivons avec. Les ordures, c'est le péché des villes. Et c'est pour ça que c'est sale, loulou, et que ça pue. Zaza, comme en ville, comme les gens. Tu sais ce que c'est les gens chez eux, quand personne ne les voit? Alors ça y va, regarde là-bas, le mec qui passe. Bien cravaté, en papaouté de chic, avec sa gonzesse dans sa traîne. Tu sais d'où il vient, hein, Bikini? Non, loulou. Des chiottes, Zaza, non. De sa salle de bain, avec Dior dans les ouïes. Et le reste, Bikini. Le reste, Zaza, dans la décharge. Attends, et ça va venir. Allons, viens, on s'en va, Bikini. C'est vrai, loulou? Où ça, Zaza? Où tu veux? Tu n'as qu'à ouvrir les yeux. Là, à tes pieds. Ce papier huilé, un peu maculé, un peu irrigué par la pisse confortable d'un chien confortable aussi, ou d'un homme pressé, un peu d'un monde perdu. Enroule-toi à lui, avec ta tête et ta pensée. Tu es à Naples, dans les bas-fonds, sous une femme un peu mûre, comme les oranges un peu trop mûres aussi, et qui suintent lentement leur sucre coloré. Enroule-toi à lui, oui, et tu vas devenir un arbre du sud, avec des seins comme des fruits, et puis, Bikini, et puis, Zaza, ton odeur, purifiée par ta volonté farouche, tu me la transmettras, et puis, nous y coulerons dedans. Loulou, arrête, Zaza. Tu me donnes des idées, Zaza. Quoi donc, loulou? Je te vois, toi, dans cette boîte de sardines. Et tu deviens la mer lointaine et savoureuse, quand elle n'a plus rien à dire, et qu'elle se prend pour la marée des songes, Zaza. Et tu rêves? Oui, loulou, je rêve, et plus rien n'est sale. Je crois que la saleté est un mot d'homme, Bikini. Il faut bien les nommer, ces déchets, non? Joseph, attends. Quand vous en aurez fini, je me permettrai de vous emmener avec moi, Bikini. Où ça, Joseph? À Manille, là où ça flanche, rapport au soleil fatigué et aux démangeaisons des politiques. Au Nicaragua, là-bas, dans les Sud-Amériques, où les gens ne se saluent qu'en se cachant le visage, parce qu'ils ont peur, les gens. Les déchets, la décharge. Penses-tu? Nous, on est bien, ici, jusqu'au cou, dans le devenir des couches salies, des bandes circonspectes, des terreurs vaginales que l'on retrouve un peu en regardant bien, en essayant l'illusion d'une rencontre et disant à une fille de 15 ans, « Tes règles, c'est la moisson de tes rêves. » Bikini. Tu charries, non, Joseph? Ces peaux de banane, Tu vois peut-être les Antilles, non ? Joseph. Dans ses pots de banane, je vois mon grand-père, quand il avait 9 ans, et que sa mère lui avait donné 6 bananes quand il partait au collège en Italie, et que le douanier voulait les lui prendre. Alors, mon grand-père pela les 6 bananes, l'une après l'autre, les mangea devant le douanier, et puis il mit les pots sur la table en lui disant « Les pots, vous pouvez les garder. » Loulou. Au fond, dans les ordures, tu vois ton passé et celui de ta famille, Joseph. Dans les pots de bananes, je vois la violence de mon grand-père enfant et, dans les ordures, je vois les larmes de la nature. Quand la nature les apprend, quand elle leur donne un nom à ces larmes, peut-être les souvenirs de ceux qui les ont inventés. Zaza. Regarde, Joseph. Cette pantoufle, Joseph. Moi, les pantoufles, rien à faire. Qui sans pantoufles, sans bourgeoise. Et voilà, Zaza. Oui, mais celle-là, avec une petite perle oubliée, comme ça, par un empantouflé, celle-là, elle me fait danser, avec une robe floue. Cette pantoufle devient mon soulier de princesse. Loulou. Et ton prince, où il est ? Zaza. Dans mes yeux, quand je le regarde. Dans mes mains, quand je le prends. Dans mes oreilles, quand il m'écoute. Dans bikini. Dans quoi ? Zaza. Dans moi, quand il tremble. Loulou. Tu la veux, dis, cette pantoufle ? Zaza. Non, laisse-la, le soulier, c'est dans ma tête. Tu ne veux pas que je me mette ma tête là-dedans, non ? C'est vraiment dégueulasse, cette décharge. Elle porte bien son nom. Si nous n'avions pas la parlotte pour l'arranger à notre façon, la décharge, alors il vaudrait mieux s'y mettre dedans aussi, avec tout ce qui dépasse, sous tout ce qui n'en finit plus de pourrir, avec cette façon d'entrevoir les villes, par en dessous. Avec seulement, au-dessus, des idées qui surnagent, pour n'en pas perdre une miette. Joseph, nous venons de la décharge, nous retournons à la décharge. Zaza, allez, retournons-y, avec l'œil qu'il faut, et le nez aussi, et les mots. Infect, comme l'Argentine sous la torture, Loulou. Boueux, comme les USA, à midi. Dans les chambres qui grattent le ciel, bikini. Croupi, comme l'âme des gens de droite qui ne font pas comme vous et moi. Joseph, encrassé, depuis 17, avec Lénine dans le train, Staline dans le Kremlin et Marx, le feu au cul et les syndicats dans les oreilles. Zaza, les éclaboussés, regarde-les, avec la chemise propre, la braguette impec. Et le sourire de l'URSSAF, bikini. L'URSSAF, c'est un peu le sourire de la décharge, non ? Loulou à Zaza. Et la vermine, dis, comment tu t'arranges avec elle, Zaza ? Zaza. Quant à rimer, rimons richement. Moi, c'est l'hermine, bikini. Mais il faut du fric, Zaza. C'est pas sûr. Il faut y croire et s'inventer. N'importe quoi, pour ne pas avoir l'air de flancher.
Si t'as pas de galette, il faut rester chez moi. On fera nos emplettes, tout décrochez-moi ça. Pour ce qui est de la galvaude, on se coudra sous la peau les images de mode qu'enfilent tous les journaux. Y a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Aujourd'hui là, c'est qu'une question de peser. Si t'as 10 francs légers, c'est que tu sais diviser. Faut être
régule, avec l'État fout une virgule, à cet argent-là, et tu te retrouves, titine, ton bar rempli, centime, badabadabo. Il y en a jusque là. Pour ce qui est des manières, tu pourras t'en remettre à moi. Comme disait ma mère, faut faire avec ce qu'on a. Il n'y a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. On était millionnaire, le tout c'était s'y faire, vu qu'on venait par terre et on te repique du tac au tac. T'avais une brique, t'as plus que 10 sacs et tu te retrouves gégène comme un gland dans la gêne. Y'a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau. Faut du coco, du bon, du beau. Y'a pas d'erreur, coco, pour faire aller le bateau.
On a le sentiment, quand on vous écoute, que il est toujours avec vous, invisible comme une deuxième ombre, mais il est derrière chacun de vos mots, chaque silence. Et,
ben, l'amour, hein, ça continue quand on s'arrête de respirer, ça c'est sûr. C'est quelqu'un que j'aime sans doute, je veux dire. Et donc, quand on aime les gens, ils sont effectivement présents quand on les appelle. Mais ça existe pour tout le monde. Mais quand on aime un homme qui a laissé, par l'écriture, par la voix, par la musique, tant d'indications, tant de messages, ouvert tant de pistes, que, évidemment, je veux dire, on peut jamais en parler au passé. On peut jamais en parler au passé, et il accompagne. C'est vrai. Nous sommes accompagnés par les poètes quand on les a lus vraiment. Le problème, c'est que bien souvent, on les cite comme ça, dans les salons encore. Ça prouve que on a lu et ouvert quelques livres, mais l'âme des poètes est complètement négligée. Et ça, Léo le sait aussi, quand il parle de cette solitude qui est le lot. Je ne sais pas si c'est simplement le lot des artistes, je pense que tous les hommes sont seuls. Mais qu'à un moment donné, ils peuvent se rencontrer, et on est bien ensemble aussi, mais que peut-être on rêve d'un monde où on serait moins seul, et que c'est ce qui nous fait marcher. Mais comment rejoindre des esprits de cette mesure. Forcément, tu es seul. Mais on ne sait plus très bien ce que ça peut... Quelle importance. Je me viens tout de suite à l'idée, parce que très vite, le spleen... Là, ce mot anglais qui donne de l'accent à notre cafard, arrive quand on commence à réfléchir à toutes ces histoires sur la solitude. Mais aussi, immédiatement nous arrivent les mots de Léo qui nous a bien fait comprendre que les larmes, c'est le vin des couillons. C'est pas... Donc on peut... Et puis on s'arrête de pleurer. Et puis on passe d'un moment de doute à un moment de joie, comme dans la vie. On dit que c'est à trop voir les êtres sous leur vraie lumière qu'un jour ou l'autre nous prend l'envie de les larguer.
Ça, c'est la technique de l'exil, ça.
Oui.
C'est le moyen de s'échapper au quotidien.
Oui. Mais il dit aussi que la révolte même l'inquiète. Disant que la révolte, c'est encore une façon de rentrer dans la cité, c'est une vertu tribale, une arme de secours, une négation de complaisance. Et puis de notre côté, il appelle à la révolte. Et quand il dit ça, la révolte même n'est plus de mise, on peut le comprendre aussi. Et puis tout d'un coup, on a envie de reprendre le Léo qui dit, qui parle de la révolte et qui demande aux hommes de ne pas l'abandonner.
On a le sentiment que c'est ce pouvoir de la négation qui a été la charpente de Léo, qui a été le ciment et la vie de nos
quotidiens. Oui.
Et c'est une chose qui manquerait aujourd'hui.
C'est dans le refus que l'œuvre d'art s'engendre. Nier les couleurs, mettre du mauve dans ce qui ne paraît pas mauve et s'appeler Gauguin, voilà qu'il y a du refus transmis. Toujours, je veux dire, quand Léo parle de l'anarchie, il dit que c'est une morale du refus. Là. Cette formulation politique du désespoir. Donc là, on est bien avec lui à des moments particuliers. Donc c'est donc à nous de préparer votre révolte. Nous écrivons la psychologie de la révolte avec des techniques d'oiseaux. Nous marchons sur le ventre des tyrans avec des pattes d'oiseaux. Nous donnons l'alarme avec des cris d'oiseaux. Moi, cette formule de Léo, nous donnons l'alarme avec des cris d'oiseaux, a toujours été pour moi le symbole de l'artiste. Et partout, quand on a fabriqué cette union des artistes de la Méditerranée, qui a mis 23 pays en réseau, et que nous rejoignons tous les deux ans avec ce bateau militaire détourné en bateau de paix, nous allons, ici et là, donner l'alarme avec des cris d'oiseaux, puis la réunion de tous ces oiseaux fait un sacré concert, quoi. Je dis, c'est vraiment une force considérable. Et là, bon, tout d'un coup, on se retrouve, c'est donc à nous de préparer votre révolte. Et puis, je trouve que la révolte même n'est plus de mise. À quel moment ? Il y a ces moments, justement, dans ces contradictions, la force de la vie, le moment où on marche seul, et le moment où on tient parce que on est accompagné. L'indifférence. C'est la béquille des misanthropes. Donc c'est aussi quelquefois notre béquille. Et puis il y a des moments vraiment où on a envie d'aimer, quoi. Des moments où on ne veut plus. Et il y a toujours dans les réflexions de Léo, sous sa forme poétique, parce que dans la philosophie, on peut en faire, des ouvertures qui nous amènent et qui nous tirent vers des horizons magiques où l'on peut pleurer, rire, chanter, entendre des musiques particulières qui sont entendues que par peu de gens, des musiques qui viennent de la mer, quoi, des portes de secours. Ce vestiaire de l'intelligence, lucidité.
Séquence 12. Le vieux. Alors, c'est moi, oui, c'est moi. Je suis la mer. Je suis le vent qui s'y déchaîne. Je suis le rocher là-bas, qui bave tout ce qu'il sait. Dans la blancheur retrouvée de la marée qui monte, je suis la marée, je remonte, et gare à qui m'empêchera de m'éclater sur cette plage déserte, et où vous n'êtes que des fourmis, des riens, une sorte de respiration inutile devant ma force, devant ma loi. Je suis la loi. Le vieux vise n'importe où avec son fusil. Arrière les inutiles! Arrière les forcenés de la misère, arrière les images que vous représentez dans le désordre de ma tempête. Je suis la tempête, oui, je suis vous qui vous accrochez à ce rien de la vie, aux choses que vous croyez vôtres. Je suis la mer, la mer.
La mer. Aller chercher fortune là-bas sous les jupons de la lune, et moi qui ne suis qu'un pauvre oiseau mouette ou goéland gigolo, je crie qu'elle revienne bientôt mouillée. Ces calmes matelots figés dans leur statut de bateau tout gris de la marée de tantôt. J'ai mon tabac, je fuis de la sécurité, je paie pas d'impôts l'hiver, je mets mon sandail. Je biche, je fous rien. La vie, c'est comme la mer retirée au loin, comme le dit le calendrier. Vraiment, il y aurait de quoi bien se marrer, petit, si elle revenait jamais partout. Parmi les algues et le sable, il y a un tout petit coin de table, toi, qui n'est pourtant pas méchant. Tu trouves des coquillages en fond. Je mange pas de poisson, vu que c'est lourd pour mes zigues. Je suis bien. Quand j'embarquais, j'avais mon litre de rhum. Je buvais. Ton cœur, c'est comme une vague indomptée qui plie sous le chagrin d'une fée qui fait une scène au vent du nord, qui sort
avec une voile loin du port. Et là, dans un café d'horizon, tu bois quelques coups à ta façon et verse une ou deux larmes d'écume et plume, une voile de plus dans la brume. Quand je partirai, je mettrai mon Defalco de Mazette et ce bon dieu de merde qui me laisse pourrir à terre. Salaud. Maman. Maman. Papa.
Le vieux s'écroule. La vieille continue à chanter le chant de son mari.
La mère est allée chercher fortune là-bas, sous les jupons de la lune. Et moi, qui ne suis qu'un pauvre oiseau, mouette ou goéland gigolo, je crie qu'elle revienne bientôt, mouillée, tous ces calmes matelots, figés dans leur statut de bateau, tout gris de la marée de tantôt.
Tu ne payes pas d'impôts l'hiver. Tu mettais ton chandail, tu foutais rien. Tu mangeais pas de poisson, vu que c'était lourd pour tes igles. T'étais bien. Quand t'embarquais, tu avais ton litre de rhum et tu buvais. Et quand tu partiras, tiens, ça y est. Je te mettrai ton Defalcoat, Mazette, et ce bon dieu de merde qui te laissait pourrir à terre. Quel salaud.
La la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, dans un café d'horizon. Tu bois quelques coups à ta façon et verse une ou deux larmes d'écume et plume une voile de plus dans la brume.
Allez, ciao.
Et ces portes de secours, précisément, vous pensez qu'il il y a encore un nombre suffisant de personnes aptes à les pousser, ces portes de secours, à faire le geste, ce fameux geste?
Moi, je crois. Je crois qu'ils ne sont pas moins nombreux. Ils ne sont pas plus nombreux, malheureusement. Mais ils ne sont pas moins nombreux. Par contre, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est inversement proportionnel. Parce que je vois quand même mon gonfler très sérieusement la bêtise. Tout à l'heure, tu me disais, mais il me manque vraiment, Léo me manque, parce que il me semblait, que quand il est là, on est à l'abri d'un certain nombre de choses, quoi. Parce que sa colère, je veux dire, est géante. Sa colère impressionne. Moi, j'ai vu à un moment donné, dans des anecdotes de vie, des gens qui m'avaient vraiment emmerdé, quoi, des connards. Je me souviens de policiers qui, parce que je m'étais arrêté une seconde où il ne fallait pas, étaient devenus extrêmement désagréables, et je m'étais juste arrêté une seconde pour rejoindre Léo. Ces agents là s'acharnaient sur cette voiture. Alors je disais, non, attendez, je m'en vais tout de suite, etc. Non, ils voulaient rien entendre, au contraire, ils devenaient de plus en plus désagréables. Et je suis allé chercher Léo pour aller avec lui quelque part. Et quand ces hommes ont vu Léo, qui était très fâché de leur attitude, il n'avait même pas besoin de parler, on sentait la colère arriver et se poser sur la bêtise. Ils ont immédiatement reculé. Mais bon, c'était très, très étrange, je l'ai senti physiquement. Tout d'un coup, la force de la colère, je veux dire, parce que ce que ces gens étaient en train de faire était stupide, mais c'est une colère froide comme ça, un regard, tu vois, et ces gens ont reculé. Donc c'est une indication peut-être un peu excessive, mais pour faire comprendre que à ce moment-là, j'avais vraiment la sensation que quand on est capable de faire passer avec sa tête, avec ses yeux, avec ses bras, avec la force d'un constat, on ne peut plus rien vous faire. Et on avait cette arme du côté de l'intelligence. Ça, c'était formidable, quoi. Et là, je cherche. Il y a des gens intelligents dans des livres, très peu, mais où ils sont dans la vie, où ils sont. Pas dire pour ça que au moment où Léo était là, les télévisions, nous aient vraiment aidé à faire passer les messages. Pas vrai. Mais ça se savait quand même. Ça se savait. On savait. On pouvait compter. On pouvait compter sur un poète dressé, quoi. Il y a des poètes, mais ils n'ont pas, en tout cas encore maintenant, trouvé les moyens d'être ce symbole de la résistance à la connerie. Pas dire pour ça qu'il n'y en a pas qui résistent, hein, mais qui sont très intéressants. Mais comme ça, dans la force populaire. C'est ce qui a fait d'ailleurs l'ambiguïté aussi de l'œuvre de Léo, comme il était très aimé par le populaire. Certains ont pensé que quand on est aimé par le populaire, on ne possède certainement pas les qualités suffisantes pour entrer à l'Académie française. Il y a encore des gens qui pensent que le suprême honneur, c'est le Panthéon ou l'Académie française. Mais on en est là. On en est là. Des gens qui... Oui, c'est ces gens-là qui font des discours en remettant des médailles. Là, on est au début de ce troisième millénaire. Et les hommes ont encore besoin de médailles. Ça, c'est quelque chose qui me suffoque, quoi. Peut-être parce qu'ils sont pas, parce qu'on les a pas assez aimés, que c'est peut-être encore une façon de leur donner l'impression d'être aimés, quoi. C'est ce souci-là de la reconnaissance.
La personne m'a dit un jour, personne qui aimait et qui connaissait bien l'œuvre de Léo, m'a dit, de toute façon, le véritable changement sera quand l'œuvre de Léo la nourrissait, lui faisait du bien, le véritable changement sera le jour, viendra le jour où l'œuvre de Léo sera remboursée par la sécurité sociale. Tellement ça fait du bien.
Ça, c'est son point de vue, parce qu'il y en a certains qui ne se portent pas du tout là. Ça leur file des boutons. Il y a des gens dont l'œuvre de Léo file véritablement des boutons. Et tant mieux. Et tant mieux. Tant que l'œuvre de Léo filera des boutons à des imbéciles. Ça sera rassurant. Ce qu'il faut, c'est que ça passe pas dans les trappes de l'indifférence.
On a le sentiment que c'est une œuvre tout entière qui reste à redécouvrir.
Absolument. Absolument. Je te disais tout à l'heure que je suis en train de relire Benoît Misère. Et pour des raisons d'ailleurs... Je relis Benoît Misère parce que je pense à un spectacle qui serait un spectacle très 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 visuel sur la vie d'un homme quoi, et ses saisons. Et j'avais dans Benoît Misère le climat de l'endroit où je situe l'action de ce spectacle. Moi, je suis né à Nice et dans Benoît Misère. Je trouve les odeurs, les couleurs, le chant de l'ambiance de ce coin du monde. Et je m'y plonge pour essayer de comprendre comment il a réussi à me faire entendre cette musique avec ses mots. Et ça me sera fort, fort utile pour mon travail. Et je l'ai relu pour ça. Et en relisant... Pour ça, pour essayer d'avancer dans mon travail, j'ai à nouveau repénétré le travail de Léo. Et effectivement, je le redécouvre alors que j'avais été déjà enthousiasmé par cette lecture quand j'avais je sais pas 25 ans 25 30 ans peut-être, je ne sais pas, même pas. Et là, tout d'un coup, des choses que je croyais avoir lues, je les redécouvre. Et ça fait ça chez les grands auteurs, hein, souvent. Et tu te rends compte que ce sont de grands auteurs. Quand j'ai lu Proust la première fois, je me disais, mais à quoi ça sert d'écrire des trucs pareils, je sais. Et puis, 10 ou 15 ans après, j'ai relu Proust et j'ai été complètement surpris d'être passé à côté d'une multitude de choses magnifiques, quoi.
Est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de Léo, c'est un petit peu comme les saisons qui nous régulent, à différentes étapes de notre vie, on peut s'imprégner d'une œuvre, d'un morceau de l'œuvre, qui en fin de vie fait une œuvre complète, en fait.
Je pense ça. Je pense que oui. Je pense que oui. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que, tu vois, quand tu lis Technique de l'exil, tu as l'impression que c'est le bilan, quoi. Et moi, je suis à un âge où je pourrais me servir de Technique de l'exil pour cette saison dont tu parles. Mais non, ça c'est quelque chose qui m'intéresse dans la littérature. Mais moi, c'est le Léo qui c'est le Léo du style qui m'intéresse là. Voilà. La poésie est une fureur qui se contient juste le temps qu'il faut. Pendant que se bande de l'arc là au milieu de la flèche, elle doit respirer, elle s'étire d'aise et puis s'en va vers sa destination. J'avais la phrase dans les mains comme une grenade avant l'éclatement. Eh bien, je lancerai des mots dans la foule au hasard et les livres ne seront plus de mise. Ça, on lancera la poésie avec les mains, avec des caractères gutturaux du romain de Glotte. Ça m'intéresse davantage que cet exil construit. Mais, effectivement, dans la dernière saison, on a envie de classer. Alors, c'est peut-être nous qui, je ne sais pas, peut-être que je respire à reculons une goulée de souvenance et je et je veux pas y aller dans cette saison. Alors, bon, je freine des quatre fers en disant non, je reste là dans cette saison où les pavés fleurissent. Voilà. C'est celle-là qui m'intéresse. Et je trouve que là, il y a ce vocabulaire utile au moment où les utopies sont tombées, qui peut permettre de les faire refleurir. Nécessaire, c'est indispensable. Et par exemple, c'est aussi dire que je suis sûr que, ma foi, je suis sûr que des gens qui se retrouvent, des gens dans les cités qui se retrouvent dans les formulations rappées du rap, s'ils entendaient Léo, là, ils auraient des armes. Ça, oui, ils auraient des armes formidables. Les armes et les mots, c'est pareil. Et se servent de leur chanson, mais ils n'ont pas entendu celle-là. C'est dommage. Peut-être que certains, d'ailleurs, je me demande si qu'est-ce que c'est leur. Je ne sais pas si Léo n'est pas le père du rap. On s'en fout, mais bon. Je ne suis pas toujours enthousiaste comme ça dans la vie. Je m'allume parce que je parle d'un poète que je crois essentiel et que mon métier est de me mettre au service des poètes. J'en ai servi d'autres. Je pourrais en parler avec chaleur. Peut-être que il y a cette tendresse supplémentaire qui me ramène le plus souvent vers Ferré, mais je pense être très objectif. J'ai lu beaucoup de choses, et c'est pour ça que je ne suis pas aveuglé, et je me suis même trompé quelquefois en croyant qu'il y avait des choses faciles dans le travail de Léo. Des fois, même, je le disais, comme un acteur qui s'oblige à dire des choses qu'il aurait peut-être formulées différemment. Et je me suis retrouvé couillon, souvent, en me rendant compte que vraiment, quel jeune acteur présomptueux ou quel vieil acteur con je faisais. Non. C'est un homme considérable et j'aimerais bien faire en sorte que ma petite expérience puisse le faire remarquer à quelques personnes supplémentaires. Ce serait le plus beau cadeau que je pourrais faire à mes amis.
Oh Marseille, on dirait que ta voix a changé. On dirait que la carte où partait l'Indochine en se prenant pour toi dans le riz délavé te pleure avec du sang et puis la marine. Oh Marseille, on dirait que la mer a pleuré tes mots qui dans la rue se prenaient par la taille et qui n'ont plus la même ardeur à se percher aux lèvres de tes gens que la tristesse en paille. Oh Marseille, On dirait que Notre-Dame en fleurs s'est penchée dans le port pour boire à ton eau verte qu'elle voyait briller comme brillent les pleurs aux yeux de tes marins que l'absinthe déserte. Oh Marseille, on dirait que le vent t'a vaincu dans la miséricorde où la vallée le traîne et que de ce mistral qui glace ta vertu, il ne reste qu'un peu d'accent qui se promène. Oh Marseille, la vie a porté sur ton dos tout sonore qui proteste en moquant la musique qui monte de ta gorge, accrochée à tes mots les mêmes que là-haut dans les steppes plastiques. Oh Marseille, on dirait que flottent des drapeaux qu'une toile impudique a piqué dans ses voiles. Et ces bateaux qui est perdu, qui croisent sous ta peau, se souviennent de toi dans la gorge des squales. Oh, Marseille, on dirait que les saisons se noient dans ton ciel portuaire où la lune s'affaire à compter les bateaux qui lui parlent de toi, jusqu'aux galions perdus qui se croient nucléaires. Oh Marseille, Marseille, on dirait que le peuple et le roi ne savaient plus quoi dire et ne savaient que faire, quand bouillait la colère et 89 fois ils ont mis sur ton nom une chanson misère. Oh Marseille, on dirait que Shakespeare a l'accent, qu'il a quitté son Angleterre et ses manières, qu'il t'apporte une rose et Joliette dedans avec des Roméo grimpant des canebières. Oh. Marseille, Marseille, on dirait que la vie te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin, on débarque toujours les amours passagères. Mais qu'importe le ciel qui se prend pour l'Orient, qu'importe ton parler avec ces mots épiques, ces mots qui sortent faire un tour avec l'accent, ces mots qui ne sortent pas de Polytechnique. Oui, mais quel mot, Marseille, quand tu y mets ta musique. Oh Marseille, on dirait que le cœur te va bien, comme te l'écrivait Guillaume Apollinaire. Ange frais débarqué à Marseille hier matin, j'entends mourir et remourir un chant lointain. Marseille, je t'aime.
C'est ce qui manque dans ce monde.
C'est ce qui manque.
L'intelligence. La connerie, c'est trop, trop, trop vivant, trop, trop, trop présent.
C'était le Fiery Club sur Radio Libertaire, préparé par Chris et Sylvie. Un entretien réalisé par Franz Vaillant à l'occasion de son documentaire Les Témoins de sa vie, avec bien sûr Monsieur Richard Martin. Prenez soin de vous, prenez soin d'elle. À bas la sociale, vive l'anarchie et à la semaine prochaine. Ciao.